Flash Tam-Tiche, toute l'actu du HCBN proposée par Ajour, RJB et le Journal du Jura.
Hello Cyril, hello Laurent, hello Stony, bienvenue à l'HTAM-Tiche. Je vous offre un smoothie tropical, c'est les vacances, on se détend, tranquille. Qu'est-ce que je vous sers d'autre, Cyril?
Pour moi, un Virgin Mojito. Lyndon, s'il te plaît, merci.
Ça marche, Laurent?
Alors moi, tu me sers un Madilla, c'est une boisson de base de lait fermenté que va découvrir Stony lors de ses prochaines vacances.
Très bien, Stony.
Ouais, je sais pas, château lac de Bienne. Un peu de l'eau, là.
C'est parfait. J'arrive dans 5. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier épisode de la saison pour votre émission consacrée à l'actualité du HCBN, car oui, vous êtes forcément au courant, les Célandais, pourtant prometteurs 4e, après 19 journées de championnat, ont terminé la saison régulière au 11e rang, pas de play-out contre Ajoie, donc c'est la bonne nouvelle, hein, car c'était pas joué d'avance quand même, faut le dire, mais surtout pas de play-in, ça c'est une grande déception, tant on pensait l'équipe capable d'atteindre cet objectif-là. On tire le bilan aujourd'hui en compagnie du directeur sportif Martin Steinegger. Salut Stony.
Salut.
Comment tu vas aujourd'hui?
Ça va bien aujourd'hui.
Je précise que tu étais notre premier choix pour cet épisode. Hein. On
ouais,
a pensé à personne d'autre.
Bien, ouais.
L'HTAM-Tiche, c'est aussi toujours en compagnie de Cyril Pache, ancien attaquant du HCBN, notamment aujourd'hui journaliste à Tamedia. Salut Cyril.
Salut tout le monde.
Et en compagnie de l'ancien chef de la rubrique sport du journal du Jura, aujourd'hui rédacteur en chef de ce même JDJ, Laurent Kleissel. Salut Laurent.
Salut tout le monde.
On va aller assez vite parce qu'on pourrait faire un épisode de 2 heures, je pense, aujourd'hui. Mais on va s'intéresser d'abord à la fin de saison. On va vraiment tirer le bilan de cette saison 2024-25. On va parler de la Légion étrangère aussi. Stony, d'emblée, merci d'avoir accepté l'invitation. Forcément, ce ne sera pas les 45 minutes les plus agréables car l'objectif n'a pas été atteint. On est obligé de revenir sur la fin de saison. On pensait que Bienne avait fait le plus dur en gagnant à Fribourg après prolongation, en gagnant au tir au but contre Langnau. Mais non, ils se sont inclinés à Lugano face à une équipe qui était déjà certaine de disputer les play-outs. T'as digéré cette défaite 4 jours après?
Alors, c'est clair, c'est une déception de finir 11e. Et puis surtout, le dernier match qu'on a eu à Lugano, ouais, c'est, pour moi, ça, c'était dur. Je crois c'est moins dur aujourd'hui d'être ici que les 60 minutes là à Lugano pour suivre.
Il nous fait un compliment là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, on le prend comme un compliment. Cyril, Bienne avait les play-in qui lui tendaient les bras. Finalement, ce sera les vacances. Alors, on peut pas mettre toute la faute sur ce match à Lugano. La faute à qui? À cette inconstance tout au long de la saison?
D'une part, oui, je pense. Après, c'est vrai que voilà, c'est dommage de perdre ce dernier match à Lugano Lugano n'avait plus rien à gagner sur ce match-là. Donc, forcément, c'est une déception. Après, sur l'ensemble de la saison, moi, je trouve que c'est... Voilà, c'est ok, oui, bah, ça aurait été bien de faire encore des play-in, mais je vois pas ce que ça aurait vraiment apporté de plus, à part peut-être un ou deux matchs de plus à la maison.
Martin, 26 matchs à domicile, 17 victoires, dont 13 dans le temps réglementaire, c'est très bien, Bienne 7e à domicile cette saison. Par contre, sur les 26 matchs à l'extérieur, 19 défaites, dont 16 dans le temps réglementaire, Bienne 11e sur la route. On a deux questions, Fabien, là-dessus. Fabien qui te dit d'ailleurs bravo pour ton boulot, mais qui te demande aussi comment t'expliques, toi, ces deux visages du HC Bienne cette saison.
C'est toujours difficile à expliquer, mais j'essaye quand même. Et puis des fois, c'est aussi des excuses, des explications. Mais c'est peut-être aussi un manque de qualité à la fin. À la maison, c'est clair, on a un super public qui tient l'équipe, qui pousse l'équipe. Là, on a vu, on a l'énergie. Et puis, souvent, c'était le samedi après un bon match de vendredi, on a bien vu Ambri, Rapi, qu'on n'a pas pu mettre la même chose sur la glace. Pour moi, c'est un peu un manque de qualité dans l'équipe, mais aussi à la fin, un manque de qualité mentale.
Ouais, tu as cité les exemples. Hein. Bienne qui met 7 buts contre Genève à domicile, le lendemain, il perd à Rapi. Bienne qui met 6 buts à domicile à Zoug, le lendemain, il perd à Ambri. Tu partages ces explications, Laurent?
Oui, c'était assez choquant d'ailleurs, la différence qu'il y avait d'attitude entre deux matchs. Bon, le match à Ambry, j'ai trouvé qu'Ambry avait fait un match assez solide, mais à Rapperswil, c'était vraiment un non-match, alors que la veille, il y avait des très belles performances. On a déjà parlé ici, hein, moi je mets ça vraiment sous le compte de l'inexpérience. Il y a beaucoup de joueurs qui découvraient des rôles qui n'étaient pas les leurs. Hein. On prend Yakovenko, on a déjà parlé, qui s'est un peu retrouvé par la force des choses, défenseur numéro 1, alors qu'il n'a pas vraiment les épaules pour ça. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont été beaucoup mis en avant, alors qui c'est plus des joueurs qui devaient apprendre à jouer à ce niveau-là, à trouver leur place. Et cette inconstance, moi, je la mets surtout sur ce facteur-là.
Si on fait le bilan très général de la saison, Stony, t'es notre dernier invité, mais t'étais aussi notre premier invité cette saison-là, et tu disais au premier épisode...
C'était le cinquième choix, si je me souviens. Ouais.
Tu disais dans ce premier épisode que, à ton avis, il y avait un beau contingent pour faire une bonne saison du côté biennois, mais que c'est vrai, il y avait moins de jokers que les années précédentes, moins de jokers si jamais il y avait des blessés, et moins de jokers si jamais certains joueurs ne répondaient pas aux attentes. Au final, ben, il y a eu les deux, les blessures, on rappelle quand même vite fait, Gaëtan Haas, presque pas joué de la saison, le capitaine, le pilier de la défense, Victor Leuve non plus, presque pas de match non plus pour Damien Brunner et Jérémy Bertschi, ça c'est ceux qui ont manqué presque toute la saison, il y a eu d'autres blessures, d'autres malades, et des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes, là on pense notamment à la Légion étrangère, à certains membres de la Légion étrangère, on y reviendra. C'est ça les deux principales raisons de cette 11e place, c'est les blessures et quelques joueurs qui étaient en dessous des attentes.
Ouais... Je ne veux pas chercher des excuses maintenant. Je crois que le contingent qu'on a eu à la fin, ils ont montré qu'ils sont capables de faire des bons matchs, de gagner les points, même en des circonstances assez difficiles. Par exemple, à Fribourg, on a tourné le match. Comme Laurent a dit, je crois aussi à Ambry était fort là. C'était difficile à gagner. Mais après les deux matchs suivants, Rappi et puis Lugano, on n'était pas assez bien. Mais... à la fin, j'ai quand même eu un petit peu raison. Qu'est-ce que j'ai dit là, tout au début, ça n'était pas un peu les blessés, puis les joueurs qui sont pas à leur niveau, ou bien presque à leur niveau.
On va s'intéresser aux blessés parce qu'on a forcément eu des questions sur l'infirmerie. D'abord, des nouvelles de Gaëtan Haas qu'on a revu sur la glace aux entraînements en fin de saison. C'est Francesco qui demande est-ce qu'il sera de retour en pleine forme pour la saison prochaine.
C'est encore trop tôt à dire, mais il y a des signes positifs avec lui. Moi, aujourd'hui, je crois, oui, il est de retour, mais c'est un long chemin encore.
Concernant Jérémy Bertschi, qui a eu deux opérations au poignet et à l'épaule, lui aussi sur la bonne voie?
Oui, c'est un petit peu plus simple, parce que là, tu sais ce qui était cassé, et puis ils ont réparé. Mais aussi lui, l'épaule et puis la main, ça va prendre de temps. Et puis jusqu'à il peut entraîner en faux, alors avec lui aussi, on doit avoir un petit peu de patience.
Tu as dit que c'était plus simple pour lui. Celui pour qui c'est le plus compliqué, c'est Victor Leuve. Où en est-il aujourd'hui?
Là, c'est vrai, c'est assez compliqué. Il a même des problèmes... en vivre pendant la journée, il peut être 2 heures, 3 heures attentif et après il a besoin d'une pause ou bien c'est trop pour lui, alors c'est très très compliqué là.
Donc tout est possible, là. Il peut très bien être de retour sur la glace comme ça peut être la fin de carrière, il y a tout qui est ouvert ou on n'est pas à ce point là quand même?
Ouais, c'est pas vraiment à moi de dire maintenant, mais là je suis... Ouais, chez Gaëtan, là je vois les progrès, mais chez Victor, c'est, comme j'ai dit, c'est très compliqué, puis c'est vraiment ouvert, c'est tout ce qui est possible là, ouais.
Cyril, assez triste comme scénario pour Victor Leuve, on s'en souvient, il s'était blessé lors de l'acte 7 de la finale à Genève, il avait manqué quelques mois, il est revenu, là il a fait 12 matchs cette saison, de nouveau une commotion, c'était après le match à Berne, une charge de Baumgartner, c'est compliqué comme scénario pour le pilier de la défense à Bienne.
Ben oui, c'est vraiment dommage. On voit que c'est vraiment un joueur qui a eu beaucoup de poids. Ben, on se souvient de ce dernier match à Genève quand tout a basculé. Et depuis, ben malheureusement, il a jamais pu revenir à son niveau. Et j'espère, enfin en entendant ce que Sonny nous dit là, c'est pas non plus très encourageant pour la suite.
Pour pallier toutes ces absences, vous êtes allé chercher des juniors, Stony. On a vu certainement Yonan Schwander, 15 ans. Il aura 16 ans lundi prochain. On a vu Niklas Blessing, très bon en défense. Gaël Christ, Nolan Catin, etc., etc. Il y a plusieurs auditeurs, Claude Alain et René notamment, qui demandent pourquoi ne pas avoir appelé plus souvent Mark Siever, le Slovène, licence suisse, attaquant de 20 ans, prêté à Holton cette saison.
C'est tout simple. On a eu un accord avec Holton qui fait toute la saison à Holton. Et c'est aussi l'expérience un peu de rappeler les joueurs semaine par semaine ou jour par jour. Ils sont nulle part après. Ils n'ont pas une bonne place à Holton parce que là, il avait power play et tout. Et puis si on le rappelle, il perd sa place là et puis il perd sa place dans le line-up. Et puis c'est juste pour ça. C'était vraiment une année de... pour développer, et puis je trouve qu'il a très très bien fait, et puis j'espère qu'il va être prêt l'année prochaine avec lui, alors avec nous. La raison c'est tout simple, c'est ça que j'ai dit là.
Vous l'avez fait venir seulement pour un match, c'était en octobre, ça avait fait un peu parler, Holton qui n'était pas content. Au final, aujourd'hui, vous êtes satisfait de cette collaboration avec le club Soleroy?
C'est trop tôt à dire, ça on va voir aussi dans les prochaines semaines, quand eux ils sont finis, on va se mettre ensemble, mais je crois, ils avaient 10 jours de nous, 12 même, il y avait beaucoup de jeunes juniors qui pouvaient faire leur premier match là, il y a un très bon exemple, c'est Blessing qui a commencé là, il était prêt après avec nous, aussi Nolan Kata, il a eu des minutes là, alors certainement il y avait des bonnes choses et puis des autres choses on doit y discuter encore. Ouais.
Laurent, dans ton journal du Jura, aujourd'hui Christian Cobie marque sur Niklas Blessing, justement la révélation de la saison, tu partages? C'est vraiment le jeune qui a montré qu'il avait le niveau pour la National League à seulement 18 ans.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec les écrits de Christian Cobie. C'est beaucoup plus dur d'introduire un jeune dans une défense, surtout qu'il y avait des blessés et il y a besoin de les faire jouer. C'est plus facile de mettre un Nolan Kata à l'aide du quatrième bloc et puis lui demander de patiner, de forechecker. Là, il faut quand même y avoir une certaine structure de jeu. Et puis, je trouve qu'il a vraiment évolué. Il a appris beaucoup au cours de la saison. C'est un joueur très solide. En fait, je pense, depuis Yanis Moser, j'ai pas vu un défenseur aussi jeune venir comme ça, puis s'intégrer aussi rapidement au niveau de la Liga. Est-ce que je dis des bêtises, Stony, ou bien...
En tout cas, chez nous, il y a sûrement des autres dans la ligue, mais chez nous, c'est après Chase. Ouais, c'est bien ça.
Ah ben merci, non, de ça. La fin de la saison, on pourrait. Merci, Stony. On progresse dans notre relation. Hein.
tu suis là, ok, combien de temps maintenant?
Quelques années, ouais.
Ouais, des fois, il y a quelque chose, un petit peu, qui reste.
Il y a quelque chose, qui se passe, quand même. Ouais, je te remercie.
Et puis qui reste aussi, tu sais.
Niklas Blessing, très bonne saison pour lui donc. Ça a été, Stony, un peu plus compliqué pour Gaël Christ qui a vite eu beaucoup de responsabilités et petit à petit perdu un peu la confiance et le temps de jeu.
Ouais, c'est vrai, je trouve qu'il a très bien commencé, bonne préparation et après il a beaucoup joué, mais malheureusement, c'était un ou l'autre but qui a fait des fautes et puis là il a aussi un peu perdu la confiance. Mais on y croit et puis on va continuer avec lui, c'est sûr. Et puis ça, c'est aussi un peu normal avec les jeunes. C'est des choses qui arrivent. Ça, les jeunes, on trouve pas. Sinon, c'est tout le monde qui les met. Mais des fois, tu encaisses un but ou bien des fautes. Et puis le plus important, c'est qu'ils apprennent quelque chose et puis qu'ils soient mieux après.
Justement, il y a un jeune qu'on n'a pas vu en National League cette année, qui était aussi à Holton, Matteo Reinhardt. Il se passe quoi avec Matteo Reinhardt? C'était un peu le grand espoir qui sortait des juniors. Il avait toujours des grosses statistiques, puis on a l'impression qu'il peine à faire le pas chez les professionnels.
Ouais, jusque maintenant, c'est vrai. Il a pas pu faire ce pas, et puis. C'est toujours un petit peu la même chose pour les joueurs offensifs, les joueurs qui font des points, qui doivent faire des points. C'est toujours plus compliqué de rentrer dans une équipe. On parle de Chaychun a parlé, mais aussi de Blessing ou Nolan. Kata maintenant, c'est plutôt des joueurs défensifs qui jouent très simple, qui jouent à hockey, ouais, simple. Là, c'est plus simple à rentrer. Et puis Matteo, il doit créer des choses, il doit être dans les deux premières lignes ou power play. Et puis, c'était compliqué pour lui jusqu'à maintenant.
On s'approche déjà du premier quart d'heure de l'épisode. Alors, je propose de faire une belle parenthèse ensoleillée parce qu'il fait beau, ciel bleu, les oiseaux chantent, on est heureux. On va parler que de positif. Cyril, je te donne la parole. Quel est le point positif de cette saison à Bienne? Qu'est-ce que tu retiens de joyeux et positif? Cadeau.
Non, mais c'est ce qu'on a évoqué juste avant. Moi, j'ai bien aimé tous ces jeunes qui ont commencé, surtout les défenseurs. Et puis, parmi les transferts, moi, j'ai aussi beaucoup aimé ce qu'a proposé Johnny Kneubüller. J'ai trouvé qu'il a vraiment fait une super saison. Sur la fin, Yannick Sablatnik, j'ai trouvé aussi que c'était une belle trouvaille. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y a eu des nouveaux joueurs, des nouvelles têtes qui ont apporté quelque chose. Et puis qui, même dans une saison où à la fin, ben on peut être déçu, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de positifs par rapport à ça.
Stony, tu peux commenter ce qu'a dit Cyril. D'abord, Johnny Kneubüller, t'es aussi totalement satisfait de sa saison. Il a franchi un cap comparé à Ambry. Il a pris des nouvelles responsabilités et il les a assumées.
Absolument, mais à la fin, moi j'avais aussi les attentes à lui. Mais il a tout à fait, il a réussi, et puis je crois qu'il y a encore un marche de progression. Si on garde deuxième partie de la saison, il était nettement mieux encore une fois. Et puis le plus important, qui va continuer direct là où il a arrêté.
Il a fini la saison très fort. J'avais les chiffres sous les yeux, je peux les retrouver. Au total, cette saison, Johnny Kneubüller, leur meilleur compteur suisse, si on compte pas la licence suisse de Fabio Offert, il a en 51 matchs 27 points, 9 buts et 18 assists. Et tu disais aussi, Cyril, une bonne deuxième partie de saison. Il est arrivé en cours de route de Yannick Sablatnik. C'est vrai qu'on a souvent parlé de cet échange avec Elvis Schlepfer à Berne. On a moins mis en avant le fait que tu l'avais signé pour les deux prochaines saisons. Tu es content de ce qu'il a montré lors de son arrivée à Bienne?
Oui, lui il amène un peu des choses spéciales qu'on n'a pas trop, et puis il a pas peur, et puis je crois là il y a vraiment une grande marche de progression encore.
En termes d'intensité, tu dis qu'il amène?
Oui, il amène d'intensité, un beau shoot, il patine bien, et puis maintenant il faut qu'on entraîne bien avec lui, et puis j'ai des autres attentes dans lui.
Très bien. Laurent, toi, du positif?
Alors, bon, déjà, ces jeunes qui débarquent, ça c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu autant de jeunes en même temps, puis qui s'installent, et puis qui sont là, puis qui font le job. Mais moi, c'est surtout Elias Andersson, qui a pas une saison facile du fait qu'il a, au moment où il trouvait son rythme, il s'est blessé. Il est revenu en janvier. Et puis, j'aime bien ce joueur, parce que c'est pas le joueur étranger lisse. On voit qu'il cherche un petit peu des noises, qu'il est toujours, qu'il gratte, il est. Je trouve qu'il a, malgré, c'est pas un joueur agressif, mais il a de l'intensité. Et je trouve aussi avec Sablatnik, c'est un joueur qui amène de l'intensité. Je pense que là, chez Bienne a pris un petit peu plus de ce. Alors, je sais pas si c'était de la frustration par rapport aux événements, mais il y a un petit peu plus de. Avant, on avait Yoga Bonito, ça jouait bien, ça faisait des passes. Artonice. Là, il y a un petit peu plus cette petite touche là qui est bien. Moi, j'aime bien Elias Andersson. J'ai hâte de le voir pour la saison prochaine. Il sera acclimaté, là, il sera en un morceau. Puis j'ai hâte de le voir la saison prochaine.
Ouais, pour sa saison 2, lui, il a fait 33 points en 40 matchs. Il en a fait sur ses 33, 14 en powerplay. Tu partages l'avis de Laurent ?
Absolument. Et puis,
décidément.
Je me souviens à Berne quand elle a reçu un check un peu solo. Et puis, c'était lui le premier qui a défendu. Alors, c'est toujours un bon signe si un étranger, ouais, il va pour l'équipe.
Il manquait un peu cette touche. D'agressivité ou de chien, je sais pas comment dire ça.
C'est touche Steinegger, disons-le.
Il manquait ça avant.
Ça change. C'est tout qui change un peu. Et puis, c'est comme Laurent dit, on doit aussi changer l'équipe un peu. Et puis, il va prendre ma place bientôt.
Écoute,
c'est avec Cyril ensemble, les deux là après. être sérieux là, non, j'ai bien aimé aussi Elias, surtout après janvier, après Noël, il était encore sur un autre niveau de nouveau.
Et sérieusement, toujours, tu comptes pas remettre ton poste de directeur sportif, t'es heureux?
Ouais, si y en a deux. Avec les qualités.
Cyril, ça te dit?
Moi, je pense qu'on aurait fait les play-in.
au minimum.
En Swiss League.
On n'aurait pas perdu contre Ajoie, en tout cas.
On va rester dans la légèreté. Je te propose une série de 10 questions. Tu réponds simplement par oui ou par non. Et après, on va développer évidemment certains points selon tes réponses.
Moi, j'ai des chokers là.
Ouais, ouais, c'est toi qui choisis. Ouais. Je pense que tu en auras besoin, ouais. Mais d'abord, tout en légèreté, un petit échauffement. Est-ce que tu penses que le LHC peut être champion cette saison?
Oui.
Est-ce que tu penses que Fribourg peut être champion cette saison?
Ils sont en play-off, oui.
Ok, ok, c'était l'échauffement. Beat Forster, entraîneur assistante, est satisfaite de sa première saison dans son nouveau rôle?
Oui.
Toute la Suisse a parlé de Jona Neuensch van der, 15 ans déjà en National League. Selon toi, c'est un peu exagéré, toute cette attention médiatique?
Non.
Non, très bien. Est-ce qu'il t'a impressionné sur la glace,
oui.
Jona? Oui, parfait. Est-ce que Damien Brunner, alors pas en tant que joueur, ça c'est sûr, mais est-ce que Damien Brunner fera toujours partie du HC Bienne la saison prochaine?
Oui.
On note, on développera.
T'as noté, c'est là. Ouais, t'as noté. Hein.
Le défenseur finlandais Oskari Laaksonen, il s'est abonné, je pense pas par hasard, à la page Instagram du HC Bienne. Tu vas attendre longtemps avant d'officialiser son engagement?
Oui.
L'attaquant suédois Marcus Silvegaard, il a aussi signé?
Non.
Ok.
Il a pas de page Instagram, lui.
Si, mais c'est pas abonné, j'ai vérifié. On va parler des deux chouchous du public pour finir, car il reste plus qu'une année de contrat pour les deux. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que Tony Raiola va rester en Suisse après la saison prochaine?
Oui.
Avec le passeport suisse?
Non, pas encore. Non.
Ok. Est-ce que tu annonceras la prolongation de contrat de Harry Seteri avant la reprise en septembre? Ah, le silence veut tout dire.
J'ai pas pris un choc. Non, je sais pas.
Mais tu espères.
Okay. Ça dépend, c'est planning aussi. Je sais pas, il a des enfants et puis on n'a pas parlé encore à la fin de la saison. On va faire ça dans les prochains jours et puis on va voir comment ses plans sont pour le futur.
Parfait.
Rembobine, là, il y avait une question alors, fort intéressante, une réponse fort intéressante.
Il y a tout un dossier sur les étrangers qu'on va ouvrir, mais avant ça, du coup, tu as dit oui à est-ce que Damien Brunner fera toujours partie du HC Bienne? Vous en savez plus?
Non, mais lui, il est grand fan de l'équipe, il va être au match, c'est sûr.
Avec non, mais... quelle casquette?
Casquette bien noire.
Mais il y a un projet avec lui dans l'entourage du club ou pas du tout? C'est la question qu'on se pose. Il y a souvent des joueurs qui finissent sur carrière, des grandes carrières. Ben, toi, tu as un bon exemple. Hein. Tu finis dans un club et puis on te trouve par rapport à tes compétences quelque chose dans le club. C'est pas prévu avec Damien Brunner?
Oui, il y a des discussions, mais lui, il est dans une situation assez favorable qu'il est pas, il doit pas.
Il n'a pas besoin de trouver un job, on va
direct,
dire ça comme ça. Voilà, voilà, on se comprend.
Il va devenir papa bientôt, alors c'est une grande devoir pour lui, alors on va voir ça. Mais lui, il n'a pas de stress, et puis nous non plus. Mais il va être dans le stade, il va rester fan de nous.
Avec une casquette biennoise.
C'est sûr.
On va parler de la Légion étrangère parce que c'est le thème pour lequel on a reçu le plus de questions. François, Yvan, Nico, Francesco, tous parlent des étrangers. On va aller dans l'ordre. On va prendre ceux qui sont là d'abord. Donc Harry Seteri, encore une année de contrat. On en a parlé. Peut-être qu'il prolongera, on l'espère. Victor Löve, on en a parlé. C'est incertain. Gros point d'interrogation pour lui. Alexander Yakovenko, il arrive en fin de contrat. Est-ce que tu vas le prolonger?
Nous, on a fini maintenant pour quelques jours la saison. Alors... On doit analyser, puis tous ces joueurs qui n'ont pas de contrat, c'est dedans, et puis on va prendre une décision dans les prochains jours.
Tony Raiola, il a encore une année de contrat. Aujourd'hui, tu es assez confiant pour qu'il continue sa carrière à Bienne et qu'il ne retourne pas tout de suite chez lui à Ilves?
C'est la même chose comme Harry. Lui, il a aussi des enfants, je sais pas, bientôt scolaires, alors c'est des grandes décisions que toute la famille doit prendre. Et puis, oui, il y a des discussions pour le passeport suisse, mais pour y faire, c'est pas si facile. J'ai essayé le test là, et puis j'étais tout prêt de réussir. Alors, vraiment, c'est pas facile. Alors, il doit faire un grand effort pour y faire. Alors, on va voir avec lui aussi, c'est la même chose. Mais moi, je suis assez confiant qu'il va rester et puis essayer de finir la carrière ici.
Ok, très bien. Le club offre un encadrement dans tout ce processus administratif pour la naturalisation?
Oui, je suis le prof de l'histoire pour lui. Là.
Premier degré, c'est vrai? Hein? C'est vrai, vous l'aidez, toi et d'autres, dans tout ce processus?
Non, d'abord c'est lui qui doit dire oui, je veux le faire, et après c'est clair, on va lui aider, ça c'est sûr.
Prof d'histoire, il raconte les épopées du SCB des années 90, c'est ça là. Je crois que ça ne sert pas trop pour le passeport, ça.
Je continue la liste avec Alexis Poniami. Alors lui, techniquement, encore 2 années de contrat. C'est le seul étranger qui a un contrat après 2026 valable. Mais Daniel Villard l'a confirmé au journal du Jura. Il a dit que toi, Stoney, tu discutais avec son agent pour qu'il parte, pour faire simple. Il sera donc pas là en septembre, Poniami.
Ouais, si le boss il dit ça, alors il a raison, je sais pas. Qu'est-ce que je veux dire contre ça?
Il a pas répondu aux attentes, pour faire simple. Alexis Poniami, t'es déçu de sa saison?
Oui, mais lui aussi. À la fin, je crois qu'il est l'année passée, il est retourné après sa blessure très fort. On avait aussi un peu la carrière de Tony. Il semble les deux un peu la stature et tout. Et puis on a bien pensé que ça pouvait être un peu une même histoire, mais malheureusement c'est pas allé. Et puis c'est sûr que c'était une saison très compliquée pour lui. Puis maintenant on est en train de discussion. Puis on va voir la suite. Il est jeune encore, il veut jouer, il veut continuer. Et puis, comme j'ai dit, il n'était pas content non plus là.
Jere Salinen, lui, il a aussi 1 année de contrat encore. Est-ce qu'il y a pareille discussion menée avec lui?
Non, je sais pas. Non.
T'es satisfait de la saison de Jere Salinen?
Non, à la fin, on est 11e. Je crois qu'il y a des très très peu joueurs où on peut dire oui, on est satisfait. Puis lui aussi, mais il faut voir que je crois qu'il a cassé les côtes. C'était en préparation, il manquait, je sais pas, 6 semaines. Il était 2 fois malade et puis assez grave malade. Alors pour lui aussi, c'était compliqué. Mais à la fin, il avait les mêmes chiffres, tout à fait les mêmes chiffres comme les 3-4 dernières années.
Puis on ne peut pas vraiment comparer Salinen et Poniami, mais il amène une autre dimension. Salinen a ce côté un peu plus fort-checker, il a ce côté plus défensif, plus leadership, et Poniami, c'est plus sur la rapidité. On ne peut pas vraiment comparer, quoi. Je pense qu'un Salinen qui fait moins de points aura toujours une utilité pour une équipe, alors qu'un Poniami qui ne fait pas de points, finalement, il ne sert à pas grand-chose, quoi. T'es d'accord, Stoney, cette fois aussi, ou bien?
Je ne sais pas pourquoi je suis ici.
Cyril, il nous manque encore un étranger dans la liste, c'est Anthony Greco, l'homme au patinage brutal, qui en 24 matchs a inscrit 12 buts. T'as pensé quoi d'Anthony Greco à Bienne?
Non, mais sur les matchs que j'ai vus, il a fait le job. Je pense que les attentes n'étaient pas non plus hyper élevées envers lui, mais je pense qu'il s'est bien débrouillé. Après, je pense pour une équipe comme Bienne, justement, c'est toujours sur les étrangers où on peut un peu jouer puis pour améliorer l'équipe à l'avenir. Donc, je pense que autant Greco de qui on a parlé, de Salinen ou Yakovenko, oui, c'est des bons joueurs, mais je pense si on veut franchir un cap et puis s'améliorer, il faut mieux que ça, c'est tout, quoi. Et même quand on regarde les stats. Voilà, Rayala, c'est 36 points. 36 points, c'est des statistiques de bon Suisse, quoi. Même Romain Lefeul à Berne, qui est défenseur, il fait 35 points. Donc, je pense que pour vraiment franchir un cap, il faut des meilleurs étrangers, c'est tout. Et si on regarde le classement, on voit que les équipes qui sont devant, c'est des équipes qui ont vraiment des étrangers qui sont top, quoi.
Ta réponse, Martin Steinegger, à ce commentaire de Cyril Pache.
Il n'y a que la qualité ici. Non, mais Greco, je crois... Il faut voir, peut-être c'est le meilleur étranger qui est venu chez nous pendant la saison. Ça, c'est une chose, je crois. Puis deuxième chose, ce speed qu'il a, c'est quand même une dimension qu'on n'a pas eue. Et puis, il y a peu d'équipes. Alors, j'imagine que ça pouvait être un bon étranger sur toute la saison. Mais comme on en parlait de, je ne sais pas combien, non, maintenant 9 ou 10, alors on doit aussi trouver la place à la fin.
Donc Anthony Greco, c'est terminé. Pas de nouveau contrat pour lui.
Non, j'ai pas dit ça.
D'accord, ça reste ouvert. On parle de ces fameuses rumeurs qui viennent de Scandinavie. Oskari Laaksonen, défenseur finlandais, 25 ans, très bon en Suède actuellement à Luleå, qui s'est donc abonné au HC Bienne par hasard sur Insta parce qu'il aime bien les paysages du Seeland.
Exactement.
Du coup, tu l'as signé, t'as dit oui, je crois, Stoney.
Je crois que ça fait trop longtemps qu'il nous côtoie.
Non, jeunes, mais un et un, c'est normalement 2. Et puis, on a 3 ou 4 Finlandais plus 1. Alors, c'est 5 après. Alors, c'est tout simple de dire pourquoi il nous suit. C'est à cause de Rayala, Sateri, Epo et Pierre. Et puis pas à cause de paysage ou du club.
Ok, donc il a signé pour 2 ans, c'est ça? Merci.
Tu peux signer sur Instagram sur 2 ans. Écoute, moi, j'ai aucune idée de ça. Alors, moi, mais je crois pas, hein, tu peux.
Il y a une question intéressante là-dessus. Premier degré, Stony, de Scotty sur Instagram, il demande... Premier degré, c'est intéressant. Quel est l'intérêt de ne pas dévoiler les nouveaux engagements? C'est pas si bête comme question. Pourquoi, quand un joueur signe, tu l'annonces pas le lendemain? C'est quoi les raisons que tu attends des fois des semaines, des fois des mois avant d'annoncer une signature? Question générale, je parle pas là de l'Axonon. Général, pourquoi vous attendez? C'est quoi les arguments, les raisons qui font que vous attendez?
Alors, il y a trois. À la fin, il y a deux qui signent un contrat. C'est le club et puis le joueur. Et puis, il y a une troisième, c'est son ancien club. Ça pouvait être, il y a des intérêts du joueur ou de l'ancien club qu'on n'annonce pas. Ça suffit.
Ça suffit comme réponse, c'est bon.
Alors, ce n'est pas seulement nous qui peut décider ou quand on annonce, c'est aussi des autres qui ont des idées ou bien des vœux. Et puis à la fin, on essaye de faire le mieux pour tout le monde. Là.
Oui, il y a aussi des stratégies de communication derrière. Tu essaies de remplir un petit peu des moments en creux en se disant, bah, tiens, là, il n'y a pas encore d'équipe de Suisse cette semaine. On pourrait le placer ce mercredi-là. Ça donnera du... Ça occupera ces journalistes chez Gassman. Donc, il y a aussi des stratégies de communication.
Donc, l'autre rumeur des médias scandinaves qui semble être assez solide, l'attaquant suédois Marcus Silvegaard, lui aussi 25 ans, no comment. No comment.
Tu fais aussi sur Instagram?
Essaye sur TikTok ou Facebook,
On peut essayer, ouais.
Il est sur OnlyFans, mais
je sais pas. Il est sur Instagram, il s'est pas encore abonné, lui.
Non, désolé. Il a pas su Elias?
Ouais, je crois qu'ils ont, il y en a des, ouais, effectivement. Il y a des joueurs qui suivent, mais ils suivent pas le club encore.
Ouais, il a pas su.
Tu vas partir avec combien de joueurs étrangers pour le début de saison prochaine? C'est quoi l'objectif?
On a parlé de 12 maintenant.
À peu près, ouais, justement.
Et puis, il y avait encore, pendant la saison, il y en a plein des autres encore. Alors, je sais pas, 12, 14. Non. Ouais. À la fin, ça va être un peu la même chose comme cette saison 7. Et puis, on a le cas avec Victor, qu'on doit voir comment on va gérer ça.
Ça fera 7 comptes Instagram à suivre, Lindon.
Ouais, c'est clair. On va parler de l'autre bruit de couloir, on est obligé, on a reçu aussi des questions là-dessus, c'est Thomas Bordelot, le fils de Sébastien Bordelot, qui avait fini sa carrière avec 3 saisons à Bienne entre 2009 et 2012. Thomas Bordelot en AHL, c'est dans le club ferme de San José. Daniel Villard qui confirmait un intérêt du club, mais qui disait au JDJ que c'était à lui de décider forcément s'il voulait quitter l'Amérique du Nord ou bien pas. On en est où avec...
Peux-tu encore dire quelque chose dans ce club? Parce que là, c'est le joueur qui doit décider, c'est Villard qui dit, tu fais quoi? Tu tapes les contrats, c'est tout bien.
Mais tu confirmes un intérêt.
Je ramasse la merde après. comme 13, je pense que j'ai dit déjà, comme 13 autres équipes en Suisse aussi.
Ouais, tout
mais,
le monde.
Je crois, lui, il va pas abandonner. Ça, c'est un peu les temps qu'on est dedans. Je sais pas. Quelqu'un, il écrit quelque chose sur des réseaux sociaux.
Instagram.
Et puis après, Instagram. Et puis après, il y a tout le monde qui suit. Et puis, oh, il a signé là ou là ou là. Et puis, 100% Thomas, il a pas signé en Suisse. Là, je suis 100% sûr. Parce que lui, il ne va pas abandonner son rêve NHL. Il y a trade deadline le vendredi. On va voir ce qui se passe là. C'est clair, pour lui aussi, c'est une déception cette saison. Il n'a que joué à NHL, mais il ne va pas abandonner. C'est trop tôt. Et puis, ouais, j'ai déjà trop parlé maintenant.
C'est moi qui suis d'accord avec Stony cette fois, parce que c'est vrai qu'il y a la deadline, il faut rappeler qu'en NHL, il y a un dernier moment, puis c'est ce vendredi pour les échanges de joueurs. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Thomas Bordelot joue dans l'organisation des San Jose Sharks, qui est la moins bonne équipe de NHL, qui est en phase de réinitialisation, c'est même pas de reconstruction, ils sont repartis à zéro, puis ils font jouer beaucoup de jeunes. Thomas Bordelot a des stats assez bonnes en AHL au Barracudas de San Jose, hein, c'est 30 points en 44 matchs. Moi, j'ai toujours été surpris qu'il ne soit pas rappelé, qu'il n'y ait pas on fait confiance aux jeunes, là on a un jeune joueur qui tourne bien en AHL, pourquoi San Jose ne l'a pas rappelé, je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit échangé aussi en cette fin de semaine, quoi.
On parle de renforts en provenance d'Amérique du Nord, non. On parle de joueurs étrangers, on a parlé de tout ça. Cyril, on peut aussi parler de de transfert interne au championnat de Suisse. Toi, tu n'étais pas à Lugano samedi, je crois que tu étais du côté de Berne pour le dernier match de Genève. Et cette interview d'après-match de Marc Gauthier est sur TikTok, décidément les réseaux sociaux. Et donc, il a ouvertement dit que oui, il chercherait à faire des échanges, que ce n'est pas parce qu'un joueur avait encore un contrat à Genève qu'il serait forcément à Genève en septembre. Il y a des petites possibilités d'échange avec Bien, à ton avis?
Alors, franchement, je vois pas quel joueur pourrait intéresser Stoney, mais je me laisse volontiers surprendre. Mais non, Gauthier, déjà l'année passée, avait tenu à peu près le même discours en disant qu'il allait se séparer de joueurs, qu'il allait échanger des joueurs. Mais en fin de compte, on remarque que c'est pas aussi évident que ça, surtout qu'à Genève, c'est quand même des gros contrats, souvent de longue durée, pour des joueurs qui sous-performent complètement. Donc ça a aucun intérêt pour les autres clubs de reprendre ces contrats. Déjà ça, donc voilà, je pense que c'est beaucoup plus simple pour changer la dynamique d'une équipe de changer des étrangers, même s'ils ont des contrats. On le voit, Bien et Poniemi, même qu'il a encore 2 ans de contrat, c'est des choses qui sont relativement faciles à s'en débarrasser, mais pour les Suisses, c'est compliqué. Enfin, Stoney, c'est bien mieux que moi, mais voilà. C'est le même discours que l'année passée pour Genève, et puis moi, je m'attends pas à beaucoup d'échanges.
Sympa l'ambiance à Genève. Qu'est-ce que t'as dit? Des gros contrats pour des joueurs qui sous-performent. C'est sympa l'ambiance à Genève, dit.
Et c'est Thomas qui te posait la question à la base à toi, Stoney, pour te demander s'il y avait un intérêt du côté de Genève à parler avec Marc Gauthier. Lui, il cite Tanner Richard dans sa question pour tout dire. Toi, t'as des intérêts du côté de Genève, pour faire simple, et pour poser sa question?
Moi, je m'entends assez bien avec Marc, et puis au téléphone, ouais, régulièrement, mais on n'a pas parlé sur des trades ou des choses comme ça, non?
Mais Marc Gauthier, t'as pas proposé Luca Ischier?
Non.
Merci. Le dossier Genève est clos. On continue avec les questions des auditeurs pour essayer d'en faire passer un maximum. On arrive déjà bientôt à la fin de l'épisode. C'est Thiago qui demande, est-ce que Ramon Tanner sera conservé?
J'ai déjà dit avant, quand on a parlé sur Jaco, il y en a plusieurs joueurs qui ont fini, qui n'ont plus de contrat pour la saison prochaine. On est en discussion et on va prendre les décisions dans les prochains jours, là, aussi chez lui.
Donc même commentaire pour Jérôme Barofner, j'imagine.
Oui.
Concernant Kunti, tout de même, tu penses qu'il va poursuivre sa carrière? C'est en discussion?
C'est la même chose.
C'est la même chose, ouais. Parfait. Lohan qui demande, pourquoi n'arrivons-nous pas à attirer un ou deux joueurs aguerris de National League alors qu'on vous entend vous réjouir d'avoir atteint 20 millions de budget?
Alors, ça dépend de quelle catégorie de joueurs lui parle. On ne sait pas. Je pense qu'il parle de qualité joueur national. Et puis là, c'est très difficile pour nous, pour qu'ils viennent ici.
Question de budget, de salaire, du coup.
Oui.
Il y a Adrien qui demande, est-ce que la durée des contrats, ça impacte grandement la décision de certains joueurs?
Et puis ça, c'est quelque chose de neuf qui vient, que beaucoup de joueurs, ils signent des contrats 4, 5, 6, 7 ans. Puis ça, c'est quand même lourd après pour nous, si tu te trompes ou si ça fonctionne pas, parce que c'est toujours la même chose. Si un joueur il veut partir d'un club, là on va trouver des solutions. Mais si toi tu te veux te séparer d'un club, tu trouves aussi des solutions, mais ces solutions sont toujours chères. Alors pour nous, on a aussi des discussions de faire des contrats de 5, 6, 7 ans, mais c'est quand même lourd ça.
Très bien, tu as répondu à Adrien, on arrive déjà gentiment au terme, on s'approche des 40 minutes d'épisode. Stoney, on a fait un petit oui-non, on avait fait un oui-non aussi en début de saison. Tu avais répondu oui à la question, est-ce que la saison dernière, tu avais laissé trop de contrats arriver à échéance au même moment? Tu vois peut-être où je veux en venir, hein. Il y avait eu les départs de Van Pottelberg, Gradgeb, Kessler, Künzle, Ishii, etc. 2026, tu as pour l'instant aucun étranger, aucun gardien, seulement 4 défenseurs et 4 attaquants. Faut donc s'attendre à ce qu'il y ait déjà pas mal d'annonces durant l'été.
Aucun étranger.
Ouais, alors Eponiemi en soi, pour l'instant, techniquement. Et après, plus ceux que t'as pas dit.
Ouais. Je sais pas, les jeunes, c'est bien qu'ils répètent pas les fautes. Et puis j'espère, moi non plus.
Ça marche. Tu as répondu. Merci beaucoup. On a répondu à la majorité des questions des auditeurs, des auditrices. Je n'ai pas toujours cité qui c'est qui nous les avait envoyées, mais merci pour toutes vos demandes. On peut pas tous les passer, on a fait au mieux. Il reste 2 petites parties dans cet épisode. pour finir en toute légèreté, on va finir avec un concours et avec un quiz. Concours, on mettait en jeu deux écharpes dédicacées. Vous avez été une bonne vingtaine à avoir participé. Stony, c'est toi qui peux choisir les gagnants ou les gagnantes. J'ai listé tous les participants Insta, Facebook. On va commencer par Insta. Donne-moi un chiffre entre 1 et 14.
13.
13. Félicitations à Gilles qui repart avec une écharpe. Et Facebook, un chiffre entre 1 et 9.
8.
Dylan. Donc Gilles et Dylan, bravo. Merci beaucoup, tu as choisi les gagnants. Qui repartent donc avec deux écharpes dédicacées. C'était la page concours. Merci à toutes et tous pour votre participation. On conclut cet épisode avec un quiz.
Dernière tournée.
On termine cet épisode et on termine cette saison d'ailleurs avec un quiz en douceur. Un quiz concocté par toi Cyril, comme d'habitude ces derniers épisodes. Et par toi un peu aussi Laurent, t'as participé avec une question. Alors Martine, je crois que même les plus jeunes auditeurs et auditrices savent que t'as été un grand joueur du hockey suisse, un grand défenseur, plus de 1000 matchs en Ligue Nationale A. Tu dois te comparer dans ce quiz à d'autres joueurs. Tu vas très vite comprendre comment ça fonctionne. On commence avec la catégorie flair offensif. À ton avis, qui c'est qui possède le meilleur flair offensif? Est-ce que c'est Martin Steinegger ou est-ce que c'est Yannick Radgeb?
C'est Radgeb.
Ok. Au niveau de la dureté, c'est toi ou c'est l'ancien Bernois et Luganest dans les années 90, Gaetano Orlando?
C'est tout simple, c'est Orlando.
Le patinage arrière, toi ou Beat Forster?
Ça, c'est aussi clair, c'est moi.
Au niveau de la vision du jeu, est-ce que c'est toi ou Noah Delémon?
Non, c'est Noah.
Ok, c'est Noah. On a très peu parlé de Noah, d'ailleurs, dans cet épisode. Hein, on le souligne, on avait reçu une question sur Noah. Je la pose quand même, vu qu'il nous reste quelques secondes. Est-ce que t'es déçu du scénario de la carrière de Noah, de son départ?
Non, je crois que c'était le temps pour lui, vraiment, pour voir quelque chose d'autre, pour entendre des choses. Peut-être qu'il va entendre les mêmes choses que nous on dit, mais lui, là, il était un peu... Il en est marre d'entendre ça. Et puis, j'espère qu'il va nous croire après.
Ce sera donc du côté de Kloten dès la saison prochaine. Merci pour ta réponse. On continue le quiz au niveau physique. Plutôt toi ou Tsenhuizen?
Moi.
T'entends physique beau gosse ou bien condition physique?
À vous de choisir. Au niveau de la coupe de cheveux, toi ou les frères jumeaux Louis et René Matt?
J'ai pensé les Hansen Brothers vont revenir maintenant. C'est les frères Matt, c'est clair.
En tant que directeur sportif, le plus excité contre les arbitres, c'est toi ou bien c'est plutôt du côté d'Ambri Piotta avec Paolo Duca?
C'est clair et net, c'est Duca.
Et l'homme qui a le plus confiance en lui, est-ce que c'est toi ou Christian Dubé?
Si je regarde comme il était sur le banc, ce qu'il a mis, c'est aussi Chris, c'est clair.
C'était ton quiz, Cyril. T'es satisfait de toutes ces réponses? T'as été étonné par certaines?
Non, je suis très content du résultat, des belles réponses. Non, pas de surprise, pas de grande surprise.
Ben voilà, on arrive au terme de cet épisode et donc au terme de cette saison. Tu en garderas quel souvenir de cette saison, Laurent, 2024-2025?
Une saison de transition, encore une. Mais l'année prochaine, ça sera bien, j'ai l'impression. Avec ces 14 étrangers, on sera bien.
On en parlait juste avant l'épisode. T'as dit oui pour Lausanne, t'as dit oui parce qu'ils sont en play-off pour Fribourg. Mais au final, ton favori pour le titre, c'est qui, Stony? On termine avec un petit pronostic.
Ouais, c'est Berne.
Ça te fait mal de le dire. Hein.
Berne, donc le favori pour le titre. T'aurais dit la même chose, Cyril?
Non, pour moi, c'est Lausanne.
Lausanne, ouais. Très bien. Bah, Laurent, continue. On peut faire le tour.
Alors moi, je miserais sur Zurich, mais ils ont fait une très bonne fin de saison. Depuis qu'il n'y a plus Crawford, ça a changé. Je vois Berne qui est assez bien aussi.
Parfait. Eh bien, on verra ça dans quelques semaines. Merci beaucoup, Stony. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour ce bilan de saison au micro de l'Achtamtisch. Voilà, on s'est tout dit pour la saison 2024-2025, je crois. Merci Cyril, merci Laurent. On se retrouve forcément pour la saison 2025-2026. On précise encore que la saison elle n'est pas terminée pour les M20 du HCBN qui disputent les playoffs contre Genève. Allez les soutenir. On a reçu une demande sur Instagram d'Alex, alors on va le faire avec plaisir. Les M15 du HC Tramelan, eux, ils jouent la finale ce samedi et samedi de la semaine prochaine. Bref, allez soutenir les jeunes sur les patinoires de la région. Merci à vous qui nous écoutez pour votre fidélité, pour tous vos messages tout au long de la saison. On se retrouve en septembre. Passez un bel été. Profitez bien. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.
Ciao tout le monde. Bonnes vacances.
Ciao. Merci tout le monde.
C'était l'Hashtam-Tiche, toute l'actu du HC Bienne proposée par Ajour, RJB et le Journal du Jura.